Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne, bonjour tout le monde.
Aujourd'hui, chers auditrices, auditeurs, pour notre avant-dernière émission de la saison, déjà.
Et la saison a filé.
Voilà, oui, on a pris quelques vacances anticipées les deux dernières
et
semaines.
Et on va continuer après, donc tout va bien.
Voilà. Asialogie va se lancer dans un exercice difficile. On espère réussir, n'est-ce pas, Didier ?
On va essayer toute la saison.
C'est de résumer le contenu et l'importance des classiques chinois dans la culture asiatique. Rien que ça.
Un morceau.
On en parle beaucoup, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Donc là, j'espère éclairer tout le monde.
Très bien.
Et puis, autre sujet bien sérieux, Didier, en lien avec une thématique qu'on avait déjà abordée dans une de nos émissions au cours de l'année, avec les sectes.
Oui.
Là, on va parler, tu vas nous parler de l'attaque au gaz sarin. À Tokyo, en lien avec cette année, parce qu'il y en a une, c'était pas le gaz sarin, mais c'était...
C'est ce qui nous rappelle cet épisode.
Exactement. Tu vas nous parler de l'histoire de la secte Aum et de l'attentat au gaz sarin, cette fois, survenu cette fois dans le métro de Tokyo
en
1995.
Ça, je m'en rappelle assez bien, ça m'avait marqué.
Oui, c'était plutôt marquant, effectivement.
D'accord. Alors, d'abord, avant de parler de cette secte et de cet attentat, Corinne, pourquoi les classiques chinois occupent une telle place dans l'histoire intellectuelle et culturelle de la Chine? Là, je pense que je plante bien le sujet. Là.
Oui. Alors, tout le monde sait que depuis plus de 2000 ans, les classiques ont constitué le cœur de la civilisation chinoise et aussi de la Corée et même de l'Asie en général.
Oui.
Très grosse influence. Ils ont façonné les valeurs sociales, les normes politiques et les conceptions du monde qui ont d'abord structuré la société impériale et qui continuent d'influencer en sourdine la culture et l'identité asiatique contemporaine.
D'accord.
Alors, la notion de classique chinois renvoie aux textes fondamentaux du confucianisme, connus sous le nom des quatre livres et des cinq classiques, qui ont servi de base à l'éducation traditionnelle et aux fameux examens impériaux, les ancêtres du bac. C'est la saison. Et ça pendant des siècles, et ça continue bien sûr toujours d'avoir une influence importante.
D'accord. Alors Corinne, j'ai envie de dire comme d'habitude, on va passer à la genèse.
Oui.
Quelles sont leurs origines ?
Alors, dans l'Antiquité, l'histoire chinoise, il y a plus de 3000 ans, ça a été la période la plus décisive il y a 3000 ans pour la formation de la pensée classique.
Oui.
Et elle s'est, concrétisée à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ, avec particulièrement l'émergence du confucianisme et du taoïsme. Alors, les quatre livres et les cinq classiques ne sont pas écrits par un seul auteur. Ce sont des œuvres qui ont été écrites sur plusieurs siècles, commentées et éditées par des générations de lettrés. Donc, ce n'est pas le fait d'une personne, ça a été analysé, enrichi au fil du temps.
Bien sûr.
Voilà. Alors, certains textes ont quand même un auteur identifié et d'autres sont donc le résultat de compilations.
Okay.
Alors, les cinq classiques sont les textes les plus anciens. Le premier, c'est le classique des vers. Une anthologie de 305 poèmes écrits par un collectif il y a à peu près 2700 ans quand même. Alors le deuxième s'appelle le Livre des documents, une compilation de textes historiques édités par Confucius, mais non pas écrits.
Oui, édités seulement, d'accord.
Édités. Et le troisième, c'est le Livre des rites. Alors ça, on en parle beaucoup dans les films. C'est une compilation écrite par des lettrés confucéens qui codifient tous les rites de la société, l'étiquette et l'organisation sociale.
D'accord.
Très important, l'organisation des fêtes, des couronnements, etc.
Ouais. Okay.
La fête aussi des saisons, tout est codifié dans le Livre des rites.
Tous les codes fondamentaux, on va dire.
C'est ça. Ensuite, le quatrième, c'est le Livre des mutations qui a été rédigé, lui, sur plus de 1000 ans. Qui explique, alors ça c'est très important, le système divinatoire basé sur les 64 hexagrammes.
D'accord.
Et pour terminer, c'est un peu ésotérique celui-là.
Oui.
Et pour terminer, le cinquième qui est attribué à Confucius lui-même, qui s'appelle les Annales de printemps et automne, c'est une chronologie historique. Donc c'est vraiment du lourd.
Oui, je suppose. Oui, oui. C'est des bases, quoi.
Oui, alors, ce sont les bases et il y a beaucoup de choses très intéressantes dans tout ça, forcément.
Alors, dans ces bases, il y a des choses que j'ai comprises, d'autres moins. Tu peux m'expliquer ce que sont ces hexagrammes, les 64 hexagrammes du livre des mutations. Là, j'avoue, tu m'as perdu.
Alors, je vais essayer de te retrouver, de retrouver aussi nos auditeurs qui se sont peut-être perdus. Donc, les 64 hexagrammes sont le cœur du système divinatoire et philosophique du livre des mutations, qu'on appelle aussi quelque chose qui est connu, c'est le Yi Qing, l'un des textes les plus anciens de la pensée chinoise, qui a une origine sacrée, et ça, on en avait parlé aussi, au travers de Fuxi, un souverain mythique qui aurait distingué le yin et le yang.
Ça me rappelle quelque chose.
Et exactement, c'est dans le taoïsme. Okay. Et créer les 8 trigrammes originels, ça nous parle aussi. Zelda, un peu. Le ciel, la terre, le feu, l'eau, la montagne, le vent, tonnerre, lac, qui ont été développés plus tard en 64 hexagrammes. C'est des combinaisons, en fait.
D'accord, ok.
Alors, qu'est-ce qu'un hexagramme? Eh bien, c'est une figure composée de petits traits superposés, ça, tout le monde l'a vu.
Oui, je suis même allé voir avant l'émission, histoire de comprendre. Quand même.
Voilà, et chacun pouvant être une ligne pleine ou une ligne brisée.
Oui, ça j'ai vu.
Voilà, et donc il y a des combinaisons importantes, on peut en faire un nom, il y a un nombre important de combinaisons.
D'accord.
Et comme chaque ligne a deux états possibles, ça fait 64 configurations qui pouvaient être dessinées sur des supports de divination en bois, des petites baguettes qui étaient utilisées par tirage pour répondre à des questions concrètes pour agir correctement dans un monde en perpétuelle évolution.
Okay.
C'est une forme de tarot, en
fait. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre.
Avec des signes qui avaient du sens.
Ok. Et alors, et que sont les 4 livres maintenant?
Alors, ils sont plus récents.
Ouais.
Et ils comprennent les fameux entretiens de Confucius, une compilation de ses enseignements recueillis par ses élèves, et les écrits philosophiques de Mencius, le successeur de Confucius qui a développé des idées comme quoi la nature humaine est fondamentalement bonne, que les dirigeants doivent gouverner avec compassion et que le peuple a le droit moral de rejeter un souverain tyrannique.
C'était très progressiste.
Mencius, très important dans la pensée chinoise.
Qu'on le rediffuse un petit peu, ça.
Oui, nous en reparlerons de Mencius. Je pense que c'est nécessaire.
Ouais, je pense qu'il y en a qui n'ont pas tout lu, ça.
Ils n'ont pas lu Mencius, voilà tout. Alors, le troisième, c'est la grande étude sur le développement moral de l'individu. Le texte qui explique que la transformation du monde commence par l'évolution personnelle, très importante. Et le quatrième livre, c'est L'invariable milieu. Il aurait été écrit par Chi Tsi, le petit-fils de Confucius. Okay. Et ce livre-là explique l'équilibre cosmologique qui est réinterprété par la tradition confucéenne.
Okay.
Et il insiste sur l'idée que la vertu consiste à maintenir l'harmonie intérieure, éviter les excès, et que l'homme vertueux doit agir avec modération et sincérité en respectant l'ordre naturel du monde. C'est quand même des belles choses.
Ouais, il y a des bases solides là.
Exactement. Donc en résumé, les 4 livres et les 5 classiques ne sont pas des livres d'auteurs, mais ce sont des compilations collectives et des œuvres réinterprétées au cours des siècles, c'est-à-dire modernisées.
D'accord.
Et Confucius a été un référent moral symbolique et Mencius, l'un des rares véritables auteurs.
Okay.
Et c'est cette accumulation progressive qui donne aussi aux classiques chinois leur autorité, parce qu'ils ne viennent pas d'un auteur unique, mais d'une étude continue de réajustement qui s'appuie sur les valeurs de bienveillance. Ça, on en avait parlé dans les valeurs, ce qui est Zhen, la justice morale, le Yi, la piété filiale, le Qiao, et le respect des rites, Li, qui sont destinés à guider le comportement humain.
Okay.
Bon, on mérite une pause musicale, n'importe laquelle, Didier.
Ah, oui,
alors, il s'appelle Lei, c'est un jeune chanteur chinois, et c'est Flying Apsaras, et moi j'adore. J'espère que vous allez adorer aussi.
Il n'y a pas de raison.
Fantasy上执着，理想我想要像梦想，飞天。 偏就天赋要执着，快闭起你的回不我来世盼的星辰月落日梦我逐日而歌在天花壁琵琶雕琢。
Alors effectivement Corinne c'est sympathique, mais comme d'habitude je suis méchant, je ne mets pas la musique en entier, sinon nous n'arriverons pas au bout de cette émission. Non mais j'invite comme d'habitude les auditeurs et auditrices à aller chercher, à aller un peu plus loin que l'émission une fois que tu nous as
oui,
fait découvrir quelque chose.
Oui, il s'appelle L-A-Y.
Voilà.
Et c'est Flying Apsaras.
Alors reprenons. À quoi servaient s'il te plaît Corinne ces textes au quotidien dans la société tout simplement?
Oui, il faut que ça serve à quelque chose et bien voilà. Évidemment. Alors c'est à partir de la dynastie Han, 200 ans avant notre ère, que le confucianisme est devenu la doctrine officielle de l'État et les classiques, la base du système éducatif et administratif. Et les fonctionnaires étaient sélectionnés grâce au système impérial d'examen. Bah, c'est un système extrêmement exigeant, d'accord, basé sur la connaissance de ces textes, ouais, et ces textes donc, qui ont façonné la société et la famille, mmh, avec donc les valeurs que je viens de citer,
bien sûr,
et dont la piété filiale, le Xiao, qui implique le respect et l'obéissance envers l'empereur, la hiérarchie, les parents et les ancêtres. Très d'accord, important. Et les classiques encouragent aussi les valeurs comme l'honnêteté, la loyauté, la responsabilité, la modestie. Voilà. Mmh. Et donc, ils ont aussi inspiré les écrivains, les poètes, les artistes pendant des siècles.
Bien sûr.
Et la calligraphie et la peinture sont des exemples d'influence avec les valeurs confucéennes d'harmonie, de simplicité et d'équilibre. Ça, on l'a vu hein, dans la peinture, comment là, c'est simple,
oui,
et équilibré.
Sûr, tout à fait. Alors, Corinne, un autre sujet. Est-ce qu'on parle des femmes dans ces classiques?
Oui,
quelle
c'est
est leur
une
place
question intéressante.
Est-ce qu'elles les ont étudiées? Est-ce qu'elles les étudient? Enfin, voilà.
Oui, alors les femmes de la haute société, hein, bien sûr, les étudiaient.
J'imagine.
Mais pour elles, il y avait un livre spécial qui leur était consacré, ça s'appelait le Nuetier. C'est les préceptes pour les femmes qui a été écrit alors plus tard, hein, au début du deuxième siècle, par une femme,
d'accord,
Ban Chao.
Plus tard, mais ça fait longtemps.
Oui, ça fait quand même longtemps,
okay,
ça fait très longtemps. Une érudite de la cour de la dynastie Han. Alors c'est le texte le plus influent, hein, qui a duré pendant des siècles, bien sûr,
d'accord,
concernant la place et l'éducation des femmes dans la tradition.
Mmh.
Alors, pendant plus de 1000 ans, il a servi de référence morale et pédagogique dans les familles.
Okay.
Et Ban Chao est l'une des premières femmes érudites connues de l'histoire chinoise. Elle était non seulement écrivaine, mais aussi enseignante pour les femmes de la cour impériale quand même.
D'accord.
Hein. Pour l'époque, c'était révolutionnaire.
Hein. J'imagine.
Faut ramener ça à ce que
faut
nous.
Faut ramener dans son contexte,
c'est
bien
ça,
sûr.
Et elle avait écrit le Nuetier pour ses propres filles afin de leur transmettre les règles de conduite attendues dans la société.
D'accord. Et alors, justement, il nous dit quoi ce texte de règles de conduite?
Alors, il se compose de plusieurs chapitres, le Nuetier. Alors, c'est les thèmes principaux,
hein, oui,
la modestie, l'humilité, la discipline, le respect du mari et le rôle dans la famille. Et l'ouvrage insiste sur l'idée que l'harmonie familiale dépend du comportement vertueux des femmes. Ça, c'est un bon, bref.
Oui, oui, oui. Non, mais et pour mettre ça au nombre de siècles que ça s'est écrit.
Exactement. Et le texte développe l'idéal des quatre vertus féminines.
D'accord.
Alors, une femme doit être humble, loyale, respectueuse, parler avec retenue, éviter les paroles grossières,
mmh,
avoir une apparence convenable avec une tenue et un comportement digne. Elle doit savoir gérer le foyer, cuisiner, tisser, s'occuper de la famille. Voilà, c'est les
elle
quatre
vertus. Elle
avait
déjà vertus, une charge mentale bien lourde quand même.
C'est
hein,
ça déjà, ça, c'est exactement.
Okay.
Et donc c'était les quatre vertus et les trois obéissances. Et plus en détail, ça veut dire, enfin moins en détail mmh, plutôt, ça veut dire que la femme doit obéir à son père avant le mariage. Ça c'est les trois obéissances.
Ouais.
Obéir à son mari après le mariage,
bien
et
sûr,
obéir à son fils lorsqu'elle est veuve.
Ah oui, celle-là, je ne l'avais pas, d'accord.
Voilà. Okay. Alors, on considère quand même souvent que le Nuetier est un texte conservateur, mais il défendait l'idée, il y a plus de 2000 ans, hein, que les femmes devaient être éduquées.
Et
ça, c'est quand même
il y a
2000
ans, déjà, ça, c'était un progrès quand même.
Exactement. Et Ban Chao critiquait dans son livre les familles qui n'instruisaient que les garçons, et elle affirmait que les femmes devaient apprendre la lecture, l'écriture, et bien d'autres choses pour leur permettre de mieux remplir leurs responsabilités familiales et sociales.
Il y avait quand même une forme de modernisme
c'était, bien
important,
sûr, quand
malgré
même,
tout,
pour l'époque.
Certes, ça nous paraît passéiste sur certains points,
oui,
mais on est d'accord.
Mais c'était il y a 2000
mais
ans.
Voilà, d'accord, ok.
Enfin, 1800 ans. C'est,
d'accord.
C'est loin.
Et alors, au cours de l'histoire moderne et contemporaine, qu'est-il advenu en fait de l'enseignement des classiques ? Enfin, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ?
Il a une position forcément plus marginale. Et puis, il a été réinterprété. Donc, au début du XXe siècle, avec la première révolution, des intellectuels chinois ont critiqué la tradition confucéenne et l'ont remise en question, considérant que ces textes étaient un obstacle à la modernisation de la Chine. Ouais. Puis Mao a pris le pouvoir et a profondément fait transformer leur usage et leur légitimité. Bon, lui, il a quand même la notion d'égalité entre les hommes et les femmes est importante quand même Mao, j'insiste là-dessus. Et son rapport au texte est à la fois critique et politiquement violent dans certaines périodes, surtout pendant la révolution culturelle. C'était des vieilleries pour lui. Alors, c'était à rejeter et à combattre. Et Mao et le Parti communiste associaient les classiques à la hiérarchie sociale, donc complètement contraire au communisme, à l'autorité impériale et aux élites lettrées. Voilà, les mandarins étaient vus comme les instruments d'une idéologie féodale et ils ne seront pas complètement interdits, mais les livres vont être retirés du système éducatif et remplacés par les écrits politiques révolutionnaires et scientifiques modernes avec Mao.
Comme je suis surpris.
Voilà, les intellectuels, bien sûr, confucianistes ont été persécutés, les écoles traditionnelles fermées, parce que ils étaient considérés comme des obstacles à la révolution, Didier.
D'accord, mais alors, Corinne, depuis Mao, est-ce qu'ils ont été réhabilités ou non ?
Alors oui, surtout à partir des réformes de Deng Xiaoping dans les années 80, ils vont se retrouver ils vont retrouver leur place dans la culture générale, dans la recherche bien sûr, et dans certains programmes éducatifs, mais étudiés comme patrimoine culturel. Aujourd'hui, la Chine contemporaine oscille entre deux dynamiques, celle de la réappropriation culturelle des classiques, et celle du maintien d'un système éducatif moderne non fondé sur eux. Et avec Xi Jinping, et malgré les transformations politiques et sociales de la Chine, ces textes continuent d'être étudiés et cités comme des sources majeures de sagesse et d'identité culturelle. D'accord. C'est un héritage intellectuel vivant qui relie la Chine contemporaine à son passé historique et philosophique.
D'accord.
Voilà l'importance des classiques.
Okay.
Bon, je vous propose qu'on écoute une belle chanson, Didier.
Eh oui.
Tu nous as trouvé Tokyo Jinsa.
Oui, c'est ça.
Donc on s'écoute ça.
Et
c'est
en plus,
japonais.
C'est pas très long, on a peut-être une chance de l'écouter en entier.
Ah, c'est peut-être pas si. On va voir.
Spotkałam ziomka w Kaliskiej z wytatuowanym pyskiem na szyi kajdan 100 gram. Chyba dzisiaj mu to dam, da da dam. Podjechał po mnie Bentleyem, w środku krystal się leje. Ja miękne nogi rozkładam, tak bardzo to lubię, nie przestawaj.
C'était une petite chanson japonaise bien sympa, Didier.
Ouais, c'est sympa. Ouais.
Bon, on est bien loin des classiques chinois avec ceux dont tu vas nous parler, Didier. Ces
Exactement.
Attaques au gaz répétées au Japon. Éclaire-nous un peu là-dessus.
Alors, un petit rappel déjà, on va commencer par là. Pour ce qui s'est passé il y a un mois, en fait, comme tu disais tout à l'heure, dans un centre commercial, c'est ce qui nous a rappelé un peu cet épisode, d'un quartier très fréquenté de Ginza, d'où la chanson.
D'où la chanson.
Au cœur de Tokyo, un homme encore non identifié a pulvérisé une substance chimique près d'un distributeur automatique bancaire, provoquant un mouvement de panique, atteignant une vingtaine de personnes qui ont commencé à tousser et à ressentir des douleurs à la gorge et éprouver des difficultés respiratoires légères. Il n'y a pas eu de blessés graves. Le suspect agit seul et il s'est enfui. Pour l'instant, les autorités n'ont pas confirmé qu'il s'agissait d'un produit toxique, mais les symptômes observés chez les victimes évoquent un agent irritant similaire à du gaz poivre ou un produit chimique volatile.
Oui, moins agressif que le sarin.
C'est ça. Les analyses sont en cours. L'incident a provoqué une forte émotion parce qu'il rappelle les traumatismes liés aux précédentes attaques chimiques ayant marqué le pays, en particulier donc l'attentat du gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995.
Tu vas bien sûr nous rappeler ce qui s'est passé en 1995 dans le métro, Didier.
Bien sûr. Alors l'attentat du 20 mars 1995, perpétré par la secte Aum Shinrikyo, qui veut dire « enseignement de la vérité suprême d'Aum », est sûrement l'acte terrorisme le plus marquant de l'histoire contemporaine au Japon. Il a profondément bouleversé la société japonaise, relevant les dangers que peuvent représenter des mouvements religieux radicaux, à l'époque soutenus par des lois liées à la liberté de culte.
Oui, c'est,
on en avait déjà un peu parlé.
Oui.
Le matin donc, du 20 mars 1995, 5 membres de la secte ont exécuté un plan coordonné dans le métro de Tokyo, l'un des réseaux de transport les plus fréquentés au monde. Vu la taille de la ville, on l'imagine.
Oui.
Les assaillants étaient montés dans différentes lignes de métro pendant l'heure de pointe, forcément, avec des sacs en plastique contenant du sarin liquide. Une fois à bord des rames, ils les ont tout simplement perforés, ces sacs, avec des parapluies. Ils se sont enfuis. C'était un peu simpliste comme système.
Oui, oui. Simple et synchro.
Ouais.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite
Le gaz. Le sarin s'est évaporé rapidement dans les wagons et les stations, et les passagers ont ressenti des symptômes graves. Difficultés respiratoires, convulsions, troubles de la vision, perte de connaissance. L'attaque a provoqué la mort de 13 personnes.
Oui, quand même.
Et il a intoxiqué plus de 6000 personnes. Alors, dans les premières minutes suivant l'attaque, les autorités n'ont rien compris, en fait. Et les services d'urgence et les hôpitaux ont rapidement été submergés par l'afflux de victimes. Les secouristes mal informés du danger chimique se sont eux-mêmes exposés au gaz en aidant les victimes.
Et oui, ils ne pouvaient pas savoir.
C'était vraiment le chaos, en fait.
Oui, on imagine. Alors, j'imagine qu'il y a eu une enquête et la secte a dû être démantelée par la suite, Didier.
Alors, 2 mois d'enquête après l'attentat. La police a lancé une vaste opération contre Aum Shinrikyo avec les perquisitions dans ces installations, bien sûr. Les enquêteurs ont alors découvert des laboratoires de chimie, des stocks de substances toxiques et des preuves de projets d'armes biologiques, rien que ça. Tout le monde, tout prévu pour d'autres attentats, bien sûr.
Oui.
Le chef Shoko Asahara a été arrêté avec les dirigeants et les membres de la secte.
Mais qui c'était ce Shoko Asahara ? C'est pourquoi il voulait nous anéantir quelque part ?
C'est ça, je vous en dis un petit peu plus. De son vrai nom, Matsumoto, donc Shoko Asahara, est né en 1955. Il a grandi dans un milieu modeste et souffrait d'une déficience visuelle qui lui a fait développer un intérêt pour la spiritualité, bouddhisme, hindouisme et surtout l'ésotérisme occidental et aux prophéties apocalyptiques.
Oui, donc il a un peu tout mélangé.
Il a fait un melting pot de tout ça. Et en 1984, il avait fondé une école de yoga et de méditation qui deviendra rapidement un mouvement religieux structuré avec les autorités japonaises. Elles vont reconnaître ça comme une religion avec un statut juridique et des avantages fiscaux. Alors, Shoko Asahara se présentait comme un maître spirituel doté de pouvoirs surnaturels et affirmait être capable de conduire ses disciples vers l'illumination.
Voilà, oui, tout simplement.
Tout un programme. Il affirmait que le monde se dirigeait vers une guerre finale qui aurait détruit la civilisation et seuls, bien sûr, les membres de la secte auraient pu survivre avec la mission de reconstruire le monde.
Oui, on se croirait dans un film de science-fiction.
Ah, total.
Un film d'horreur aussi.
Ouais, on peut
mélanger tout ça. Ça a été la réalité quand même.
Oui, c'est ça, c'était leur réalité. Dans cette logique, ils justifiaient la violence comme un moyen de transformer le monde et que tuer les ennemis de la vérité était spirituellement justifiable.
Ça fait peur quand même.
Oui, un petit peu, oui.
Alors, qui étaient les membres de cette secte? Comment sont-ils arrivés à commettre un attentat contre leurs, compatriotes?
Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Ouais. Alors, ils ciblaient, comme souvent dans les sectes, surtout des étudiants, des diplômés universitaires, des scientifiques fascinés par les promesses spirituelles et la critique radicale de la société moderne. Au début, dans les années 1990, la secte comptait plusieurs dizaines de milliers de membres au Japon et à l'étranger, notamment aussi en Russie. Alors, pour agir, La secte a acheté des terrains, construit des laboratoires destinés à produire des armes chimiques et biologiques, dont le fameux gaz sarin, un agent neurotoxique développé par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, avant l'attaque du métro de Tokyo en 1995, il faut savoir que la secte avait déjà mené au moins une action violente, celle de l'attaque au sarin, dans un quartier résidentiel de la ville de Matsumoto en 1994, faisant plusieurs morts déjà et des centaines de blessés. Alors, l'attaque visait des juges impliqués dans un litige immobilier opposant la secte à des habitants, et à l'époque, la police n'avait pas soupçonné Home Shinri Kyo.
Bon. Oui, bah, ça fait peur.
C'est un peu dommage, mais...
Alors, il y a eu un procès des condamnations, Didier, pour conclure, parce que c'est bientôt fini,
c'est ça. Ah oui, c'est ça.
Déjà. Mais bon, on veut savoir la fin.
Bien sûr, la secte a été dissoute après les arrestations, et les procès ont duré plus de 20 ans, hein, en raison de leur complexité et du grand nombre d'accusés.
Ah oui, c'était des milliers.
C'est ça. En 2018, Shoko Asahara a été condamné à mort, et d'autres membres de haut rang aussi de la secte ont été exécutés. Mais après cela, bah, d'autres sectes ont pris le relais de cette idéologie, mais sont maintenant surveillées de près par les autorités qui ont renforcé les lois sur les sectes qui représentent une menace pour la sécurité publique. Ils sont vigilants.
Oui, maintenant, ils n'ont plus d'avantages fiscaux, je crois.
C'est ça, il faut espérer quand même. Aujourd'hui encore, de nombreux survivants souffrent de séquelles neurologiques et psychologiques très graves. Alors cet attentat au gaz sarin reste un traumatisme, vous l'avez compris, majeur. Et chaque année, des cérémonies rendent hommage aux victimes. Ils continuent également d'alimenter des recherches en sociologie sur les mouvements religieux radicaux et les mécanismes de radicalisation dans le monde entier.
Ah, merci Didier, bon, c'est important de connaître.
C'est ça, ça sert toujours de leçon, il faut savoir regarder
oui,
tout ça.
Oui, quand même. Bon, bah, c'est fini les amis Asialogie, c'était notre avant-dernière émission. On se retrouve la semaine prochaine.
Pour la dernière,
on vous fera une petite surprise.
Voilà,
vous pouvez nous réécouter le samedi matin 9h30, le mercredi à 13h et bien sûr en podcast sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes.
Parfait.
Donc rendez-vous jeudi prochain pour la dernière de la saison, toujours sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans aussi.
À jeudi.
Salut, prenez soin de vous.